Bonjour, je suis Philippe de Paris. Je réagis aux propos que je viens d'entendre sur la production d'électricité à partir de la force des vagues ou de la marée. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le nucléaire produit presque 400 TWh par an. Et l'usine marémotrice de la Rance, qui est un très bon exemple, produit environ 500 GWh par an, soit 800 fois moins. Donc il en faudrait 800 comme celle-là, avec un impact écologique énorme. Et on les mettrait où? Parce qu'il faut au moins 7 mètres de marnage pour que ce soit efficace. Donc, ben, je suis désolé, je suis pas pro-nucléaire, mais je suis réaliste. On consomme de plus en plus d'électricité et à ce jour, seul le nucléaire permet d'en produire autant, à peu près proprement et surtout avec très peu de CO2 sur une si petite surface au sol. Merci.
Bonjour, Olivier de Bretagne, de l'Association des écologistes pour le nucléaire. Les personnes qui veulent remplacer les énergies fossiles par ce qu'on appelle les énergies nouvelles, ils font l'impasse sur les ordres de grandeur. Finalement, si on y réfléchit bien, seul le nucléaire a la concentration énergétique nécessaire pour utiliser le moins de matériaux possible et de ce fait être la solution la plus écologique pour fournir en énergie, en électricité, toute la planète. Voilà, merci.
Dominique à Orléans. Bonjour, chers auditeurs de la Terre aux Caraïbes. Les chantiers d'automne proposés par les conservatoires d'espaces naturels se déroulent en ce moment partout en France. Depuis des chantiers de débroussaillage, d'entretien, de sites par exemple, à des chantiers un peu plus lourds, il y en a pour tous les goûts. Alors retrouvez les chantiers d'automne sur le site internet réseau-seine.org. Bon chantier à tous, merci et à bientôt.
Bonjour la Terre aux Caraïbes. Nicolas Liury, j'habite à Arras. Je suis enseignant en sciences de la vie et de la terre et docteur en écologie. Et je vous écris pour vous faire part de la publication d'un roman qui s'appelle La Vraisemblance et que j'ai publié aux éditions Librinova. Et ce roman cherche à imaginer une chronique utopique des élections présidentielles à venir et pour imaginer une France un peu plus solidaire, un peu plus altruiste et plus éclairée aussi. Et donc l'objectif de ce livre, c'est de montrer comment l'application d'une démarche démocratique et scientifique permettrait de résoudre un certain nombre de solutions autour des crises sociales et environnementales que nous vivons. Merci beaucoup encore pour votre émission. Au revoir.
Oui, bonjour. C'est Claire et Aurélia d'Amsterdam aux Pays-Bas. Nous sommes de la Fondation Naya Nature et depuis 4 ans, nous travaillons avec les écoles et les centres de loisirs en France et aux Pays-Bas pour reconnecter les enfants à la nature.
L'éducation par la nature doit être un prérequis à l'éducation à l'environnement si nous voulons éviter de développer une éco-anxiété chez les enfants. Des enfants connectés à la nature dès le plus jeune âge grandissent heureux, équilibrés et prennent soin de la nature spontanément. Aujourd'hui, nous donnons le pouvoir aux enseignants et aux éducateurs des écoles existantes d'inclure eux-mêmes l'éducation par la nature dans leur quotidien.
Et nous voulons former les 100 premiers enseignants et éducateurs à la médiation enfance-nature. Et vous pouvez découvrir tout ce qu'on fait sur notre site www.nayanature.nl. Merci pour tout la Terre au Carré, à bientôt.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Le voyage auquel nous vous convions cet après-midi va nous emmener 300 millions d'années en arrière sur notre planète. À cette époque lointaine, un des événements les plus marquants de l'évolution des vertébrés s'est produit puisque des reptiles sont retournés à une vie aquatique. Une adaptation à la vie marine qui s'est faite bien avant l'apparition des dinosaures. Les reptiles ayant vécu dans les océans du globe étaient des animaux très variés, vous allez le voir, du point de vue de leur anatomie, de leur mode de vie. Et certains particulièrement spectaculaires ont occupé le sommet de la chaîne alimentaire. C'est l'occasion donc de vous les faire découvrir avec nos invités, les paléontologues Nathalie Bardet et Alexandra Houssaï. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue en chœur pour nous présenter ce livre chez Belin, La mer au temps des dinosaures. Avec également à vos côtés pour l'écrire Stéphane Jouve et Peggy Vincent et les illustrations très importantes dans cet ouvrage d'Alain Beneteau. On va donc plonger avec vous dans l'univers étonnant des ichthyosaures, des plésiosaures et des autres mosasaures. On se retrouve dans un instant pour parler donc de ces reptiles qui ne sont pas des dinosaures, on va l'expliquer, avec messages et questions des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et bien sûr l'appli France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
On passera au vert bien sûr à 14h30.
Le méga projet pétrolier de Total Energy en Ouganda. 3 ONG accusent l'État français de faire le jeu du groupe et de faire passer les intérêts privés de Total Energy devant les intérêts publics.
Voilà pour le sommaire de l'émission. Valérie Ayestarail la réalise. Le dossier a été préparé par Chantal Le Montagnier, Léonard de Locane pour les réseaux sociaux et Clément Berman à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Il y a 245 millions d'années, les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 150 millions d'années. À la même époque, des reptiles, devenus des prédateurs féroces, régnaient dans les eaux. Bizarrement, leurs ancêtres vivaient sur la terre ferme et attrapaient leur proie en galopant sur leurs quatre pattes. Mais pour pouvoir survivre, ils furent obligés de s'adapter à la vie aquatique.
Ces animaux sont passés de la terre à la mer pour une raison toute simple, le stress, les pressions exercées par la famille. Quand on est né reptile ou lion, on grandit entouré de frères, de tantes et d'oncles, qui tous cherchent des proies, des tanières et des territoires. Le résultat est qu'il arrive un moment où on vous expulse. Alors si on vit sur Terre, une façon d'aller voir ailleurs est de se jeter à l'eau. Je ne vois pas d'autre bonne raison, et au début de l'âge des reptiles, c'est devenu tout à fait commun.
Voilà, extrait d'un documentaire animalier à l'aube des temps, les monstres marins préhistoriques, c'était en 2018, et on va voir avec nos invités si elles sont d'accord sur le stress qu'auraient vécu justement les reptiles, au point de retourner à la mer. En tout cas, on va voir à quoi ressemblaient les océans du globe au temps des dinosaures, avec ce voyage donc de 250 millions d'années. Nathalie Bardet, vous êtes spécialiste donc des reptiles marins du Mésozoïque, et directrice de recherche CNRS au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le Mésozoïque, donc on y va tout de suite, hein, ça correspond à quoi comme période à peu près?
Entre 252 et 66 millions d'années. En fait, c'est balisé par deux grandes crises biologiques, la crise Permo-Trias qui voit l'extinction d'à peu près 95% des espèces.
Donc c'est juste avant ça,
voilà,
que commence
juste
le Mésozoïque
avant, donc le Mésozoïque commence après cette crise.
Ouais, 95%, pardon, parce que je vous ai coupé, mais c'est quand même un chiffre très important.
En fait, c'est la plus grande crise biologique que la Terre ait connue.
Faune, flore, 95%, tout disparaît sur Terre.
Voilà, mer, terre, voilà. Ouais. Et l'ère Mésozoïque se termine à 66 millions d'années avec la crise, la fameuse crise Crétacé-Tertiaire, qui est la plus médiatique.
Bye bye les dinos.
Les dinosaures terrestres, pas les oiseaux.
Ouais.
Et voilà, donc le Mésozoïque, c'est ça. 252, 66 millions d'années, avec trois périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé.
Très bien.
Et puis, une configuration des continents et des océans différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, au début, il y a une grande masse continentale qu'on appelle la Pangée, qui ensuite va se disloquer à cause de la tectonique des plaques. Et donc, il y a des océans qui vont naître, l'Atlantique, etc., etc.
Donc, c'est une Terre qui ne ressemble pas du tout à ce que nous connaissons aujourd'hui, évidemment.
Pas du tout. Ça bouge en permanence. Et en fait, au fur et à mesure que le temps se passe, la Terre ressemble de plus en plus à ce que nous connaissons aujourd'hui.
Ouais.
On sait bien que ça, c'est passager, que dans 40 millions d'années, la Terre sera encore
différente.
Ouais. Et puis, il y avait également des différences de température, de composition atmosphérique, et des différences de faune et de flore, bien évidemment.
Du point de vue de la température, il faut imaginer quoi, alors? Il y a 250 millions d'années.
Ouais. Alors, exactement à ce moment-là, je ne sais pas, mais globalement, pour le Mésozoïque, plus chaud.
Ouais.
Plus chaud que... Et avec des compositions en CO2 plus importantes également.
Donc ces monstres marins dont on va parler, ces reptiles marins, ils ont évolué dans des eaux plus chaudes aussi. Hein.
Globalement, oui.
Ouais.
Globalement. Alors il y avait des calottes glaciaires au pôle, mais pas en continu. Oui, il faisait globalement plus chaud.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors juste avant le Mésozoïque pour que justement 95% de la biologie des espèces vivantes disparaisse?
Une grande crise biologique.
Donc, mais c'est quoi à l'origine?
Des épanchements volcaniques, c'est une des hypothèses. Voilà, des grands épanchements volcaniques et donc une grande extinction en masse qui a détruit à peu près 95% des espèces. Et ce qui a donc libéré des tas de niches écologiques, et on peut supposer que les reptiles qui étaient sur Terre se sont dit...
Youpi, il y a de la place pour nous.
Tiens, voilà, si on allait voir ce qui se passe dans l'eau, hop.
Profitons-en.
Voilà, et c'est comme ça, en fait, le début du Trias, quelques millions d'années, juste 3 millions d'années, 4 millions d'années après la grande crise biologique, il y a une immense radiation évolutive adaptative de divers groupes de reptiles marins qui se mettent en place, et dont certains, comme les ichthyosaures et les plésiosaures, vont perdurer jusqu'à presque la fin du Crétacé, certains jusqu'à la fin du Crétacé.
Ouais, cette période qu'on décrit avant de passer aux activités d'Alexandra Houssaï, évidemment, cette crise biologique, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Hein.
Ça
a pris beaucoup de temps, de même que justement, la façon dont les reptiles se sont imposés à cette époque. Hein.
Oui, c'est ça.
Il a fallu du temps quand même.
Oui, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. On peut imaginer des mois, peut-être des années pour que les écosystèmes... Donc déjà les extinctions, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis la reconquête, la recolonisation, tout ça, ça prend à peu près 3-4 millions d'années d'après
ça. Donc c'est plus que des mois
c'est
et
plus
des
que
années.
Quelques mois. Ouais, mais pour nous, c'est pas beaucoup, on va dire.
À l'échelle quoi, géologique alors,
Nous, on jongle un peu avec les millions d'années en général. C'est pas beaucoup.
Jongleuse de millions d'années, Alexandra Ousseil, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au sein de ce laboratoire MECADEV, Mécanismes adaptatifs et évolution, Muséum national d'histoire naturelle. C'est quoi votre travail exactement alors?
Moi, je suis une paléontologue, pas dans le labo de paléontologie. Je travaille en morphologie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le lien entre la forme et la fonction, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est fait comme ça. Donc forcément, en tant que paléontologue, je travaille sur les parties dures, donc sur le squelette.
Ouais.
Et donc le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le squelette de tel animal était fait comme ça, donc quelles sont les contraintes évolutives qui ont pesé. Et notamment, les contraintes fonctionnelles, c'est... ça va être de savoir comment est-ce qu'il pouvait bouger avec un squelette comme ça, quels changements dans son squelette ont permis qu'il puisse vivre dans tel environnement, se déplacer de telle façon, supporter une charge. Donc voilà, je travaille à essayer de comprendre la grande diversité morphologique qu'on a au sein des différents squelettes qu'on peut trouver dans le règne animal.
Vous en avez beaucoup, parce qu'il faut avoir la matière pour arriver à des conclusions. Il y a beaucoup, beaucoup de squelettes de différentes espèces que vous avez.
Ça va. On a quand même plein de restes. Pour des registres fossiles, les paléontologues ont quand même fait pas mal de bon travail. Donc ça va, on a de quoi faire dans nos collections un peu partout. En plus, il y a toujours ce qui est exposé en musée, mais nous, dans les collections, on a beaucoup plus de spécimens que ce qu'on peut voir quand on visite les institutions. Et puis, par contre, c'est une discipline où on est obligé de beaucoup travailler sur l'actuel, parce que il faut qu'on comprenne justement les liens entre comment l'animal bouge, où est-ce qu'il vit, et son squelette chez les organismes actuels pour lesquels on a toutes les données.
Ouais.
Et à partir de cette base qui va être solide, là, on peut ensuite faire des inférences sur les espèces qui sont éteintes.
Donc, par exemple, vous pouvez étudier les tortues actuelles ou les crocodiles actuels pour essayer de voir comment ils fonctionnaient il y a 250 millions d'années ?
Oui, c'est ça. Ouais. À chaque fois, ça va être ça. Ça va être un jeu de ping-pong entre... j'essaye de bien comprendre toutes les règles à partir des squelettes des actuels pour ensuite pouvoir faire des inférences solides à partir de mes squelettes fossiles.
Alors, dans l'introduction de votre livre, vous dites que vous avez été confronté à un problème récurrent. Expliquez que les grands reptiles, qui sont vraiment au cœur de notre sujet cet après-midi, sont aussi imposants que les gros dinosaures, qu'ils ont vécu pour certains à la même époque, mais qu'ils ne sont pas des dinosaures, sauf que vous semez vous-même l'ambiguïté, puisque votre livre s'appelle « La mer autant des dinosaures », mais il ne nous parle pas de dinosaures, donc comment on s'y retrouve ?
Alors, ça c'est...
Nathalie Bardet.
Comment dire ça ? Ça c'est un compromis entre les auteurs et l'éditeur.
Voilà.
Et en fait, ça va un peu dans la continuité du livre, de la collection du livre de notre collègue Jean-Sébastien Seyer, qui s'appelait « La Terre avant les dinosaures ». Alors non, nous maintenant on est dans la mer autant des dinosaures, mais dinosaures c'est quand même un peu un mot-clé qu'il faut...
C'est plus vendeur.
Que mésozoïque, la mer autant des mésozoïques.
Oui, parce que nous notre titre c'était les reptiles marins de l'ère secondaire avec ça.
Ça fait beaucoup.
On va vendre 4 exemplaires qu'on va nous-mêmes acheter et donc voilà, c'était un compromis mais bon, qui finalement...
Alexandra Ousseil.
Et puis les dinosaures c'est le référentiel pour tout le monde et donc c'est toujours bien de dire ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait aussi en même temps, et puis en plus de dire que c'est la mer autant des dinosaures, ça montre aussi cette scission qu'il y a justement à dire que là on va dans la mer et on va pas sur les dinosaures qui sont terrestres, mais on part dans le registre aquatique.
Mais alors justement, insister sur le fait que ce qu'il y avait dans les animaux qu'il y avait dans l'eau n'étaient pas des dinosaures, ça veut dire qu'aucun dinosaure, quand on parle de dinosaures, il n'y en a aucun qui était capable d'aller dans l'eau.
Alors, il y avait des dinosaures qui étaient amphibies, mais il n'y a aucun dinosaure strictement marin, sauf si on considère les oiseaux, parce que les oiseaux sont des dinosaures.
Oui, mais donc, ils vivent pas dans l'eau.
Un manchot, un pingouin actuel, c'est un dinosaure, c'est un dinosaure marin.
Mais elle coule pas.
Voilà, un manchot, c'est un dinosaure marin.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, mais si on prend les dinosaures de l'ère secondaire strictement terrestre, alors ils étaient capables de, mais ils n'étaient pas capables de nager, ils n'avaient pas d'adaptation au milieu aquatique comme l'ont nos animaux avec des palettes natatoires, des choses comme ça. Voilà.
Bon, il y a aussi l'ambiguïté du mot dinosaure, parce qu'il y a l'idée du lézard quand même.
Oui, alors ça c'est historique. C'est lorsque tous ces grands reptiles ont été décrits au début du 19e siècle, dans les années 1800-1830, ils les ont tous appelés Zorus, qui veut dire lézard, et en fait tout est parti un peu de là. Mais c'était Ichthyosaurus, Plesiosaurus, et puis après Mégalosaurus.
Les dinosaures ne sont pas des reptiles.
Les dinosaures sont des reptiles, mais ils ne sont pas des lézards.
D'accord.
Voilà.
La nuance est d'importance.
Ouais. Oui. En fait, les dinosaures font partie du grand groupe. C'est-à-dire, parmi les reptiles, vous avez trois grands groupes. Les tortues, les archosaures, qui comprennent les crocodiles actuellement, ouais. Et donc les oiseaux, et les dinosaures, les autres, les terrestres. Et puis, vous avez les lépidosaures, qui comprend les serpents et les lézards. Donc, c'est deux groupes bien différents. Donc, ouais. Les lézards sont dans les lépidosaures, les dinosaures. Et là-dedans s'inclut également tous les groupes mésozoïques.
Ouais. Il y a plein de tiroirs, en fait. Hein,
c'est
pour ça, tout
ça. C'est ça.
Et ben aussi, on va essayer d'en ouvrir certains avec vous, puisque vous êtes nos invités pour parler de la mer au temps des dinosaures. Et il y a déjà des questions pour vous sur franceinter.fr. You and me, c'était Al Jay.
La Terre au carré. Sur France Inter.
C'était terrible, c'était une mer peut-être aussi incroyable que Jurassic Park, avec une diversité de prédateurs aussi féroces les uns que les autres. Je n'y aurais pas mis le plus petit doigt de pied, certainement pas.
Oui, ben nous non plus, on n'a pas tellement envie, en fait, après avoir lu votre ouvrage, Nathalie Bardet, Alexandra. C'était quand même un milieu hyper hostile, hein. Parce qu'on le disait, c'était quand même les super prédateurs de l'époque qui vivaient dans les océans il y a 250 millions d'années.
Oui, mais en fait, c'est un focus sur ces super prédateurs. Mais si vous prenez les mers actuelles, il y a aussi des orques, des requins, c'est des super prédateurs aussi. Donc, on pourrait dire un peu la même chose. Je ne sais pas si ces mers-là étaient plus dangereuses que les mers actuelles.
En tout cas, vous montrez une diversité. Ça,
oui,
c'est important.
Voilà.
Parce qu'il y a vraiment énormément d'espèces telles qu'on ne peut même pas les imaginer aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme des chimères. Certains, on ne les aurait jamais imaginées.
Avec des têtes pas possibles. D'ailleurs, on a mis des images, tiens, en story sur sur le compte Instagram de la Terre au Carré pour que les auditeurs puissent voir un peu à quoi ressemblaient ces animaux dont on parle là ensemble. Oui. Alexandra Houssaye.
Non, je voulais juste dire que cette diversité, forcément, nous là, on a une diversité énorme, mais comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, ça s'étend sur 180 millions d'années à peu près. Donc, forcément, la diversité actuelle, elle est beaucoup moindre. Mais on est seulement à un instant T. Alors que là, dans le livre, on documente énormément de millions d'années. Donc, bien évidemment, cette diversité, elle est importante. Bah, de moins 250.
Non, mais combien d'espèces, du coup, vous répertoriez à peu près?
Un inventeur précis.
Je sais pas, 500, 600, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est pour tout le Mésozoïque. C'est
voilà,
sur
donc
180
c'est pour
millions
ça.
D'années.
Il faudrait diviser par le temps pour avoir. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas cette diversité actuellement. Et à chaque instant T, il n'y avait pas tout. Par exemple, les mosasaures arrivent relativement tardivement sur la Seine. Ils étaient absents du Trias et du Jurassique. Donc voilà, à chaque moment, on a même les super prédateurs, ils ne sont pas là tout le temps.
C'est vrai.
Et alors tout à l'heure, on entendait une référence à Jurassic Park, il y a eu le film Jurassic World, où il y a, alors on sait pas trop ce que c'est, un dinosaure qui a l'air d'être énorme et qui va dans l'eau. Donc il rentre dans quelle catégorie là?
Et qui bouffe tout d'ailleurs.
C'est un mosasaure. C'est un mosasaure un peu gigantesque parce que la taille du spécimen qu'ils ont pris fait un peu deux, trois fois la taille maximum qu'on pouvait observer chez un mosasaure. Mais du coup, non, c'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin.
Et vous dites
un beau mosasaure. Enfin, parce que on a toujours ce focus sur les dinosaures et je trouve ça bien de montrer autre chose parce que les reptiles volants, on les connaît bien. Les ptérosaures, on en a tous vu, il y en a toujours dans les films. On a une bonne image des reptiles volants, mais les reptiles marins, on les a pas souvent. Donc là, je trouvais ça plutôt pas mal qu'on ait enfin un reptile marin qui en plus a un rôle clé. Dans la saga.
Hors antenne, vous nous avez même conseillé un film, c'est ça?
Tout à fait, parce qu'il y a le dessin animé La Colo du Crétacé, donc pour tous les parents qui sont intéressés, moi en tout cas mes enfants adorent.
C'est bien fait, quoi.
Oui.
Voilà. Et Valérie Aïstari a regardé intégralement le dessin animé hier pour préparer cette émission. C'est ce qu'elle me dit en ce moment dans le
cadre. Non, c'est une série dessin animé. Il y a plein d'épisodes.
Elle a regardé toute la
nuit. Elle a fait un boulot incroyable. En tout cas, il faut aller où aujourd'hui pour trouver des fossiles de reptiles marins, Nathalie Bardet? Est-ce qu'il y a des spots particuliers, des hotspots?
Il y a des spots pour chaque période, en fait. Alors, pour le Trias, par exemple, c'est la Chine, c'est la Suisse et l'Italie. Pour le Jurassique, c'est l'Angleterre, l'Argentine, les États-Unis. Et pour le Crétacé, ça peut être l'Europe, ça peut être le Maroc. C'est l'endroit où on travaille.
Et je sais que vous étiez au Maroc en 2007, par exemple, puisqu'une équipe de France 2 vous a suivi sur place, vous et votre équipe. Petit extrait de ce reportage.
Tout cet air-là, ils étaient occupés par une mer qui avait des profondeurs de quelques mètres à une centaine de mètres, à peu près 150 mètres.
Le Maroc exploite de manière intensive les phosphates transformés en engrais et les fossiles surgissent.
J'en ai une qui est belle.
Sefket trouve son bonheur dans ce gigantesque cimetière.
Voilà, vous avez une belle dame de requin qui est morte il y a probablement 45 à 50 millions d'années. En quelque sorte, nous sommes les magiciens qui font revivre les animaux qui avaient disparu, soi-disant, mais qu'ils deviennent à nouveau vivants dans nos mains, avec nos connaissances.
Et quel squelette avez-vous trouvé?
Là, c'est un crâne de Chenanizucus. C'est un crocodile un peu particulier du Paléocène, qu'on trouve qu'ici, d'ailleurs. Et donc, il est sur le dos. Je vais déjà mettre ça.
Le crocodile menace de tomber en poussière. Impossible de l'emmener tout de suite. Il faut le protéger avec du plâtre.
À demain alors.
À demain.
Bon, là, vous avez reconnu la voix de tous vos copains paléontologues, finalement.
Voilà,
vous avez réagi à chaque voix.
Oui.
Il est évoqué la fragilité, justement, de ces fossiles. Alexandra Houssaye, vous confirmez qu'il faut prendre beaucoup de précautions quand on est sur le terrain. Parce que vous, c'est la première fois que vous partiez, je crois, en 2007 au Maroc.
C'était la première fois que je partais au Maroc avec Nathalie. J'étais en thèse à l'époque, effectivement. Et d'ailleurs, on y était tous là, ces anciens doctorants, Peggy Vincent et Stéphane Jouve. Donc, on était tous ensemble sur le terrain. Donc, on va avoir certains spécimens, des fois, qui sont préservés dans une roche où ça va pas être très fragile, ça va être relativement simple de les transporter.
Oui.
Et puis d'autres pour lesquels il faut vraiment consolider le spécimen, ce qui a été le cas pour ce crâne de crocodile qu'il a fallu plâtrer.
Est-ce qu'on en découvre régulièrement, comme on découvre régulièrement de nouvelles espèces de dinosaures, Nathalie Bardet? C'est quelque chose de très fréquent finalement, le reptile marin?
Oui. Ouais. On en découvre plusieurs nouvelles espèces chaque année, plusieurs spécimens, notamment au Maroc, justement.
Donc il faut nommer à chaque fois.
C'est ça, exactement.
En fonction de quoi? De leur découvreur ou de leur découvreuse, par exemple?
Non, ça s'est laissé à...
Vous n'avez pas un reptile qui porte votre nom, Nathalie Bardet?
Ah non, mais en général, on ne se dédie pas... Non, c'est pas nous qui nous dédions, nous-mêmes. Ouais. Mais non, ça dépend des affinités de chacun pour donner les noms des nouveaux genres. Là, par exemple, nous sommes en train de décrire un nouveau énorme mosasaure dont le crâne faisait 1,50 m. Je ne vous dirai pas le nom parce que...
Ah, dommage. Vous nous faites un teasing, là.
Non, on ne peut pas.
On c'est pas validé dire. Encore
On ne peut pas, voilà. Tant que c'est pas validé, on ne peut pas le dire. Sinon, en fait, il est considéré comme pas valide. Donc, je vous le dirai pas.
Il mesurait combien avec un crâne d'un mètre cinquante?
1,50 m, en tout, il devait faire 10 mètres de long. C'est le méga prédateur de la faune des phosphates du Maroc. Et donc, nous sommes en train de le décrire.
Très bien.
Avec plusieurs collègues.
Marion, sur Instagram, demande quels sont les descendants des dinosaures marins qu'on peut observer aujourd'hui. Alors, je rectifie, Marion. Ce ne sont pas des dinosaures marins, mais des reptiles marins. Mais vous avez quand même le droit de lui répondre.
Alors, des descendants des reptiles marins, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y en a beaucoup qui vont... Il y en a certains qui ne vont pas aller jusqu'à la crise crétacé-tertiaire. Il y en a qui vont y aller et qui vont s'y éteindre. Donc, les seuls qui ont vraiment bien survécu, ça va être sur ce qui est tortue et crocodile. Donc là, on a pas mal de diversité qui a passé la crise et qui s'est... avec une diversification au tertiaire. Et sinon, sur les autres groupes, les mosasaures font partie du groupe des squamates, c'est-à-dire les lézards et serpents. Donc là, on a encore des serpents marins qui sont de toute façon les reptiles marins les plus nombreux. Ça va être les serpents marins. Mais par contre, entre-temps, il y a eu des formes qui ont été terrestres et qui se sont ensuite secondairement réadaptées au milieu aquatique.
Mais Nathalie Bardet, des reptiles vivants aujourd'hui véritablement dans le milieu aquatique, il n'y en a pas tellement en fait.
Non.
Hein.
Non, par rapport à la diversité d'autres animaux. Ouais,
parce que même chez les crocodiles, voilà. Il n'y en a pas qui vivent tout le temps dans l'eau, c'est très rare.
Alors, le crocodile, il y en a un, les lézards, il y en a un, les serpents, il y en a un peu plus, et les tortues, il y en a quelques-unes, genre la tortue lutte, la tortue verte. Mais
donc, ils sont revenus sur Terre, on peut dire les choses comme
Non, ils ont continué leur vie dans l'eau. Par exemple, les tortues marines que nous connaissons aujourd'hui, c'est les mêmes familles que celles qu'on avait déjà au Crétacé.
D'accord.
Alors, ce ne sont pas les mêmes espèces, mais c'est les mêmes familles.
Allez, on revient vers vous dans un instant. La mer, autant des dinosaures et toutes vos questions avec des réponses de la part de nos invités.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille passe au vert.
Et je vous emmène du côté du lac Albert en Ouganda, pays de l'Est de l'Afrique, frontalier du Kenya et de la Tanzanie. Lac immense, c'est l'un des plus grands du continent, hein, 160 km de long et 30 de large, entouré de paysages calmes et paisibles, disent les guides touristiques. Photos à l'appui où on voit aussi hippopotames, éléphants et autres animaux du coin. Et ce lac Albert abrite en plus un trésor dans ses profondeurs. Enfin, trésor pour certains. Du pétrole. Si bien qu'au paysage devraient bientôt s'ajouter des infrastructures avec le logo Total Energy, puisque le groupe compte s'y implanter à travers ce qui est qualifié de méga projet pétrolier. Plus de 400 puits d'extraction, plus un oléoduc géant, 1445 km de long. Ce sera le plus long du monde pour transporter 230 barils par jour entre l'Ouganda et la Tanzanie. 230 000 barils, entre l'Ouganda et la Tanzanie à partir de 2025. Le PDG Patrick Pouyanné s'est rendu en personne sur place en avril dernier pour donner le coup d'envoi. Et ce matin, trois ONG opposées à ce méga projet montrent ça. Mathieu, je veux bien que vous lisiez.
Eh bien, comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda.
Voilà, titre d'une enquête de l'Observatoire des multinationales de survie et des amis de la Terre, où Juliette Renaud est responsable de campagne.
Les intérêts de Total sont aujourd'hui infiltrés au sein de l'État, notamment via le mécanisme qu'on appelle des portes tournantes, c'est-à-dire les allers-retours qu'il y a entre des cadres de la haute fonction publique et Total.
Autrement dit, le groupe ferait partie des décideurs côté pouvoir public et Olivier Grandjean de l'Observatoire des multinationales a décortiqué les organigrammes des hautes sphères pour illustrer ce phénomène dit de porte tournante qui se serait en plus accéléré ces dernières années.
Par exemple, quelqu'un qui venait de Total, qui a travaillé au cabinet de l'Élysée sous Emmanuel Macron et qui ensuite a été travailler à un autre poste au ministère des Affaires étrangères, ou un ancien conseiller du ministère de la Défense et ministre des Affaires étrangères qui est ensuite allé travailler chez Total. Le responsable en chef du lobbying de Total qui était à l'Élysée, conseiller économique de François Hollande au moment où Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Donc vraiment des exemples multiples de ces allers-retours entre secteur public et secteur privé qui expliquent bien des choses de notre point de vue.
Alors justement, qui explique quoi? Parce que, après tout, je lui ai posé la question, en quoi travailler d'un côté puis de l'autre prouve que ces gens prennent part à ce que l'enquête qualifie de stratégie d'influence? Réponse.
C'est une évidence. Tous ces gens qui sont passés par Total et qui peut-être y retourneront un jour, ou qui iront travailler un jour, ils peuvent pas avoir de cerveau et penser que Total, c'est un acteur d'un côté qu'il faut pas soutenir parce qu'il contribue au dérèglement climatique et de l'autre côté, voilà. Donc c'est une évidence.
Et Juliette Renaud ajoute des arguments.
On le voit via des choses très concrètes. Donc, par exemple, une lettre d'Emmanuel Macron au président ougandais disant que le projet d'oléoduc de Total en Ouganda est une opportunité majeure de coopération entre les deux pays. On le voit au travers de l'ambassadeur de France en Ouganda qui multiplie les discours en faveur du projet pétrolier, qui organise des réunions à l'ambassade ou à sa résidence pour aider Total à se connecter au niveau des entrepreneurs, etc. en Ouganda. Un grand nombre d'événements de l'ambassade sont sponsorisés par Total.
Bref, une confusion d'après eux entre les intérêts publics et les intérêts privés de Total Energy qui se défend. Voici ce que l'entreprise m'a envoyé ce matin par mail.
Total Energy rejette l'idée selon laquelle il existe une confusion entre les intérêts publics et ceux de l'entreprise.
Total Energy rejette l'idée selon laquelle l'entreprise aurait une stratégie visant à infiltrer le cœur de l'appareil de l'État.
Par ailleurs, Total Energy rappelle qu'il est à la fois normal et légitime d'attirer les meilleurs talents d'où qu'ils viennent.
Total Energy rappelle qu'il considère le dialogue avec ses parties prenantes comme une dimension essentielle de la conduite responsable de ses activités.
Total Energy prendra donc tout le temps nécessaire pour étudier ce rapport et se réserve le droit d'y répondre par le moyen le plus approprié.
Le groupe a déjà aussi par le passé réfuté les accusations d'atteinte aux droits humains sur place. Les ONG avancent 100 000 personnes au moins déplacées, privées de leurs terres, et des opposants réprimés. Et assurent également au sujet, cette fois, des conséquences sur l'environnement. Là, je vais citer leur page internet consacrée à ce méga-projet. Des mesures strictes ont été prises pour éviter, réduire et compenser l'impact. Total Energy mettra en œuvre des plans d'action permettant de produire un impact positif net sur la biodiversité. Bla 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 pour Thomas Barthes de l'association Survie, vu l'emplacement du projet.
Il démarre au cœur du plus vieux et du plus ancien parc naturel d'Ouganda, le parc des Murchison Falls. De plus, avec l'oléoduc, ce qu'on remarque, c'est que ça va impacter, en plus du parc des Murchison Falls, énormément d'autres zones extrêmement sensibles, que ce soit des zones humides, que ce soit d'autres zones protégées, des forêts primaires, des réserves d'animaux ou certaines espèces sont assez en voie de disparition. Et je parle pas du côté climaticide. Ce projet va provoquer un dégagement de CO2 plus important de manière annuelle que ce que dégagent l'Ouganda et la Tanzanie réunis. Juste un seul projet.
Projet dont se sont détachés déjà plusieurs banques, hein, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, pourtant souvent pointés du doigt pour leur financement aux énergies fossiles. Les ONG voudraient désormais que ce soit l'État français qui tourne le dos.
Il y a aussi une responsabilité de l'État français à agir, non pas en continuant de faire le jeu de Total, mais se mettre en accord avec tous les discours, les beaux discours qui sont faits par le gouvernement et par Emmanuel Macron sur la scène internationale.
Le président qui déclarait ça encore avant-hier.
Je le dis ici clairement, l'homme ne pourra continuer à vivre sur cette planète que s'il vit avec son environnement et non plus à son détriment.
Voilà, et le méga projet de Total Energy en Ouganda, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Sujet aujourd'hui de Camille Passauvert. Dans un instant, la suite de notre dossier sur la mer au temps des dinosaures.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir? Qu'est-elle devenue, cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel? Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens. sans souci du poids de l'existence. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée d'or. Ajouter à nos êtres cette part du monde qui au fond nous avait échappé. Nous courions en larmes dans tous les sens à la recherche du poids de l'existence.
De l'existence. C'était la voix d'Émilie Loiseau.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique il y a 180 millions d'années. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait.
Ouais.
C'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh, les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas, comme chez les humains. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits, parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique.
Voilà, en plus de la colo du Crétacé, Valérie Ayestari, notre réalisatrice, a aussi visionné YouTube Kids avec ce son.
Elle s'éclate.
Ben oui, sur les plésiosaures. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait partie des espèces de cette grande famille des reptiles marins, Nathalie Bardet.
Oui, alors les plésiosaures font partie d'un grand groupe qui va traverser tout le Mésozoïque, qui sont connus du début du Trias jusqu'à la fin du Crétacé.
Oui.
Et les plésiosaures plus particulièrement du Jurassique et du Crétacé.
Oui.
Donc ils ont une forme très particulière.
C'est-à-dire
avec des grandes palettes natatoires qui leur permettent de pratiquer ce qu'on appelle le vol subaquatique, un peu comme les tortues marines actuelles, ça bat des palettes, voilà.
Ça bat de la palette.
Ça bat de la palette, voilà, si ça vous plaît l'expression.
Oui, j'aime bien.
Et puis, bon, certains avaient un cou très court, une grande tête, d'autres avaient un immense cou et une toute petite tête. Il y avait une grande diversité.
Par rapport justement à leur morphologie, on a pas mal de questions, en particulier sur Instagram de Lou, qui nous demande comment est-ce qu'on arrive à dessiner, à imaginer ces animaux. On recite les illustrations dans votre livre d'Alain Beneteau. Mmh. Comment on y arrive, Alexandra Houssaï?
Bah, on a quand même pas mal d'éléments squelettiques, donc là, par principe de comparaison anatomique, on arrive à savoir quel os correspond à quel os, à quel endroit on doit le placer, etc. Donc on arrive à avoir une allure de l'organisme. Par contre, c'est pas faux qu'on a rien pour les parties molles, pour savoir ce qu'on doit mettre autour du soleil, du squelette. Mais on a certaines préservations exceptionnelles. Des fois, c'est le cas, par exemple, pour pas mal d'ichthyosaures sur lesquels on avait les contours qui ont été préservés, ce qui a permis de voir notamment qu'on pouvait avoir une nageoire dorsale qui pouvait nous donner une idée de la forme de la nageoire caudale. Donc certaines fois, les préservations exceptionnelles nous donnent des grandes informations.
Les parties molles, c'est quoi exactement? C'est tous les tissus, ce qui se dégradent au fil du temps,
ça.
En fait.
Nous, on appelle ça, voilà, les parties dures, ça va être tout ce qui est squelette, dents, et puis tout le reste, ça va être les parties molles.
Moi, il y en a un que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est l'Atopodentatus, surnommé la tondeuse à gazon du Trias. Il a une drôle de tête, effectivement, une drôle de bouche.
Oui. Oui, une drôle de bouche. Oui. Vous voulez que je vous en parle?
Ah, attendez, oui. Mais une tondeuse à gazon dans la mer, en plus, moi, ça m'intrigue.
Oui, voilà. Parce qu'en fait, alors, Atopodentatus, c'est... Pour moi, c'est la science en marche. Exactement. Parce que ça veut dire que on émet des hypothèses qu'on valide ou qu'on ne valide pas, on revient en arrière, on s'est trompé, on continue. La science, c'est pas quelque chose de fixe. Sinon, c'est pas une science. Et Atopodentatus, c'est un exemple parfait. Parce qu'en fait, il a été décrit avec un fossile qui avait été trouvé, qui avait le museau conservé d'une certaine manière. Et en fait, les paléontologues se sont vraiment posé la question pourquoi il avait ce museau. Et quelques années plus tard, mais vraiment 3-4 ans après, ils ont retrouvé, c'est un animal qui vient du Trias de Chine, ils ont retrouvé un autre fossile préservé d'une autre manière et qui éclairait en fait ce museau bizarre. Et en fait, il a comme une espèce de museau horizontal, un peu comme un requin-marteau, avec tous des petites dents. Et c'est probablement le seul reptile marin qui mangeait des végétaux. Parce qu'en fait, les autres reptiles marins sont carnivores.
Je suis en train de mettre l'image sur le compte Instagram de la Terre au Carré pour montrer aux auditeurs la tête de ce monstre.
Voilà, les dessins d'Alain sont magnifiques.
Voilà, ils sont carnivores.
Tondeuse à gazon.
Ils sont carnivores, ça veut dire qu'ils mangeaient quoi?
Ils mangent, ça peut aller du mollusques, des ammonites, des choses comme ça, des poissons. Et pour les plus gros, pour les mégaprédateurs, d'autres reptiles marins, d'autres gros poissons, d'autres animaux.
Et pour rebondir, vous parlez donc de la végétation que ce... Comment on dit gazon? C'est quoi, tracteur?
Tondeuse à gazon du Trias.
J'avais tracteur, n'importe quoi. Yann demande sur Instagram, justement, s'il y a des traces fossiles des végétations marines de l'époque.
Alors, non, c'est très compliqué, les végétaux, à se conserver dans le milieu marin. Donc, les algues, tout ça, on ne sait pas trop. On retrouve jamais... Alors, on peut retrouver des bois fossiles, mais c'est des bois qui ont été charriés depuis les continents. C'est pas des végétaux marins. Ouais. Mais c'est... Je ne sais pas. Et pourtant, je vis entourée de paléobotanistes à l'endroit où je me trouve au muséum. Et franchement, j'ai jamais trop vu de... Oui. Et je ne pense pas que ça se conserve.
Bon, ça y est, on vient de poster sa photo sur la story Instagram de la Terre au Carré. Atopododentatus. Quel est votre reptile préféré, Alexandra Houssaye, vous?
Oula,
vous avez un petit coup de cœur?
Non, j'ai pas de chouchou, vraiment. Vrai non, mais pour de vrai. Alors, une petite anecdote. C'est les illustrations formidables qu'on voit ici dans le livre. Moi, celle que j'aime le plus, c'est tous les croquis qu'Alain a fait avant en aquarelle, qui sont magnifiques. Et quand enfin on a vu l'ouvrage, on s'est tous vus avec Alain et il nous a montré son carnet de croquis qui pour moi est un chef-d'œuvre. Ouais. Et il nous a dit qu'on pouvait en choisir un et je n'ai pas pu choisir parce que effectivement ils sont tous magnifiques, ils ont tous leur petit charme, leur petit, enfin voilà charme. Si j'en avais en face de moi dans la mer là, je partirais en courant.
C'est vrai.
Mais ils ont chacun leur charme. Ouais.
Alors ce retour à la vie marine, parlons-en quand même parce que vous dites c'est un des grands événements pour les vertébrés. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup des espèces qui s'étaient habituées pourtant à la vie terrestre, puisqu'après tout le monde vient de la vie marine, sont retournés dans ce milieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, justement, voilà, le retour à la vie aquatique pour les vertébrés, c'est un phénomène évolutif majeur suite à, justement, ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la sortie des eaux par les vertébrés.
Ouais.
Et en fait, ce retour à la vie aquatique, il se fait... il y a quelques prémices durant la fin de l'ère primaire... mais c'est vraiment après la grande crise biologique de la limite Permo-Trias que les reptiles, en fait, vu toutes les niches écologiques qui étaient vacantes, eh bien, ils vont envahir la Terre, les dinosaures, les crocodiles, les tortues, les aires, les ptérosaures et les mers avec tous les groupes de reptiles marins que nous décrivons.
Donc c'est quoi? C'est de l'opportunisme alors? C'est pas du stress comme on disait au début de l'émission?
Je ne sais pas.
Alexandra Houssaye, c'est quoi votre version?
Non, mais le stress, il existe pour toutes les espèces au quotidien. Il y a une compétition en permanence pour les mêmes niches écologiques. Il y a la même nécessité de fuir un prédateur qui arrive. Donc, si on a une niche écologique qui est vide d'un seul coup, où il va y avoir une ressource alimentaire qu'on va pouvoir utiliser, tant mieux. Une niche dans laquelle il n'y a pas beaucoup de prédateurs, tant mieux. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé plein de fois et au sein de plein de lignées. C'est vraiment pas un seul événement où d'un coup, il y a une lignée qui va dans l'eau. Il y a plein de lignées indépendamment. Et puis ça s'est fait au cours, à la fin de l'ère primaire, au cours de l'ère secondaire, et puis au cours de l'ère tertiaire, ça s'est fait aussi chez les mammifères, où on a aussi des adaptations au milieu aquatique.
Mais on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, des espèces fassent ce choix-là, par exemple, parce que plus possibilité justement d'évoluer sur Terre?
Bien sûr, l'évolution, c'est un phénomène permanent qui, dans plusieurs millions d'années, peut-être qu'il y a des espèces qui sont actuellement terrestres, qui envahiront le milieu marin après que, je ne sais pas, les cétacés auront disparu ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Parce que quand il n'y aura plus de baleines, des choses comme ça, on peut tout à fait imaginer ça.
Question justement à propos de baleines. Pierre nous écrit, les baleines apparues il y a 50 millions d'années après l'extinction des dinosaures auraient pour ancêtre un mammifère terrestre quadrupède ongulé à doigts pairs bien adapté pour la course. Ont-ils donc un ancêtre commun avec les dinosaures, Alexandre Roussaï?
Non, par contre, des ongulés, oui, complètement. En fait, pendant longtemps, on s'est demandé, quand on regarde une baleine, le squelette d'une baleine et quand on regarde tous les squelettes de mammifères, on ne s'y retrouve pas. C'est super compliqué d'arriver à trouver quel est son cousin le plus proche. Mais chez les cétacés, on a de la chance. On a vraiment réussi à trouver les premiers cétacés qui sont adaptés au milieu aquatique et qui ressemblaient du coup pas du tout à un cétacé, qui ressemblait à un espèce de loup quadrupède avec une longue gueule. Et chez ces bêtes-là, on a retrouvé donc le membre postérieur qui a disparu chez les baleines actuelles. Il n'y a plus de membre postérieur, il n'y a plus de patte arrière. Il y a un os de la cheville qui est vraiment particulier chez ce groupe d'ongulés dont il parle, qui est vraiment caractéristique. Quand on le trouve, on sait qu'on a un animal de ce groupe-là, et on l'a retrouvé chez ces baleines-là. Donc on a pu se dire, on sait qu'elles font partie de ce groupe-là. Ouais. Et après, au sein de ce groupe, on se demandait, est-ce que c'est plus proche des cochons? Est-ce que c'est plus proche des hippopotames? Et il y a pas mal d'études récentes qui nous ont montré qu'en fait, c'est beaucoup plus proche des hippopotames. Donc en fait, le groupe actuel le plus proche des baleines, c'est le groupe des hippopotames.
Ouais. Et est-ce que chez l'homme, il y a des traces finalement d'un passé extrêmement lointain de la vie aquatique ou pas du tout, qui serait une sorte de fossile archaïque ou est-ce qu'on pourrait avoir sur notre propre squelette quelque chose qui... Oula. Je ferai référence à ça.
Oui. Alors là,
je me lance, je vous pose la question comme ça, comme elle me vient.
Vous voulez pas que je vous parle du Requiem de Brahms? Ça serait plus facile à répondre.
Non, mais il peut y avoir des traces ou pas du tout?
Non, on trouve pas grand-chose chez les primates. Il n'y a rien qui nous montre du milieu aquatique. Non, on n'a plus rien. Après, il y a certaines personnes actuellement qui défendent que... Certains hominoïdes primitifs auraient eu un squelette massif qui leur aurait permis de mieux se débrouiller en milieu aquatique, mais c'est une hypothèse très peu
soutenue. Rien de très convaincant. Très bien.
François, pardon, par mail nous demande si le monstre du Loch Ness existait vraiment, dans quelle espèce la rangeriez-vous?
Ça vous en parlez?
Oui, sauf que Nessie n'existe pas.
Non, mais il y a une espèce qu'on aurait pu croiser au Loch Ness, justement, dans ce que vous décrivez.
Oui, non, mais Nessie, ça n'existe pas. Ça, c'est de la
crypto. Mais Nessie ressemble à un plésiosaure.
Voilà, mais bon, ça serait un élasmosaure, vu à quoi ça ressemble, mais bon, sauf que ça n'existe pas.
Bon, François, ça n'existe pas. Gardez-le en tête.
Et cette espèce que vous citez, c'était avec un très long cou, justement.
C'est un peu ce qu'on voit toujours dans le monstre du Loch Ness. Il y a un long cou, une petite tête.
Il y en a un, effectivement, qui lui ressemble dans ce livre.
Voilà, mais...
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de ce dossier de la Terre au carré avec quelques questions encore pour vous.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît. J'ai trouvé dans mon carnet à spirale. N'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt, des boules de gomme et des matins pas frais. Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique. Ton amour, c'est vrai, mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît.
d'autre sait bien faire. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je veux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
Le carnet à spirale de William Scheller.
France Inter. La Terre au carré.
Nathalie Bardet, Alexandra Houssaye sont nos invités pour ce livre « La mer au temps des dinosaures » chez Belin. Et Camille, encore quelques questions, je crois.
Oui, Régis sur Facebook voudrait savoir si ces animaux, donc les reptiles marins dont on parle, pondaient des œufs comme les tortues ou les lézards.
Alors, pondre des œufs, justement, c'est un problème parce que une fois qu'on devient vraiment aquatique, on va plus pouvoir pondre ses œufs. Sinon, il va falloir revenir sur terre. Et revenir sur terre, quand on voit la tortue lutte, c'est vraiment quelque chose qui est très très coûteux. Hein, déjà pour qu'elle puisse se déplacer, venir pondre, et puis après les risques, ce que ça crée pour les bébés tortues. Donc il faut éviter, et donc non, on va avoir une viviparité qui va se remettre en place. Donc la question c'est de savoir à peu près quand ça s'est passé à chaque fois. Mais c'est à partir de là qu'on peut dire aussi que les bêtes vont être complètement affranchies du milieu terrestre quand elles ont cette capacité de se reproduire uniquement en milieu aquatique.
Mais donc vous avez réussi à avoir des informations sur comment elles se reproduisaient?
On a des spécimens qui sont morts avec les embryons à l'intérieur, donc on voit qu'il n'y a justement plus de coquilles qui sont préparées pour la ponte, ni rien. On a chez les ichthyosaures encore avec des préservations exceptionnelles, on a plusieurs spécimens où on a comme si on avait le bébé qui était en train de sortir de la mer. Et en fait, ça c'est pas du tout parce que il y a eu une fossilisation pile à l'instant où il y avait naissance, mais c'est juste parce que au moment de la mort, après, il y a putréfaction et les gaz vont faire s'échapper l'embryon. Mais ça nous permet de voir aussi la taille du jeune. Et on a vu aussi ça en étudiant en détail la structure des os d'embryon. Et on voit que la taille de l'embryon est très importante. Et ça, on ne l'a pas du tout dans les quatre pontes. C'est seulement quand il y a de la viviparité.
Nathalie Bardet, on a mis à nouveau sur la story Instagram de la Terre au Carré un autre spécimen, c'est l'archélon. Alors c'est marrant parce que là, on a une photo, hein, pour le coup, avec un homme à côté. C'est un fossile, évidemment. Et ça, c'est une tortue géante,
hein. Oui, c'est une tortue géante qui a été trouvée dans le Crétacé supérieur, 80 millions d'années nord-américain, au début du siècle, ça date des années 1900 et quelques.
Ouais.
Et c'est le même grand groupe que la tortue lutte actuelle.
Oui, ma version XXL. Quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis probablement assez carnivore, vu le museau qu'elle a avec un grand bec acéré.
Écoutez, allez voir ce que ça donne sur le compte Instagram. C'est assez impressionnant de voir un pauvre homme à côté de ce monstre marin.
Est-ce que tous ces reptiles évoluaient à des profondeurs différentes? Est-ce qu'il y en avait qui étaient dans de grandes profondeurs, d'autres plus en surface? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Alors, à partir du moment où les reptiles ont des poumons, ils doivent quand même remonter à la surface pour respirer. Donc, ils ne peuvent pas vivre tout le temps au fond de l'eau. Ils remontent, mais oui. En fait, ils vivaient dans la colonne d'eau sur le plateau continental plutôt, donc des profondeurs, je ne sais pas, entre 0 et 100, 200 mètres. Certains plongeaient pour aller manger des coquillages au fond de l'eau. D'autres vivaient plutôt en surface, comme des dauphins, il y a tout. Ouais. Mais grande profondeur, c'était probablement épisodique, un peu comme les cachalots qui vont...
Alexandra Houssaye, pour terminer.
Non, c'était juste pour préciser qu'on peut avoir des informations sur leur squelette et sur la structure de leurs os aussi, pour savoir à quelle profondeur de nage ils pouvaient nager. Par exemple, il y en a qui utilisent des os, qui vont avoir des os super compacts, qui vont leur servir de ballast. Donc ceux-là, c'est des bêtes qui vivent à faible profondeur sur les fonds.
Ouais.
Alors qu'il y en a qui ont un allègement du squelette, qui vont avoir un squelette qui est très adapté pour plonger. Donc on reconnaît ça également.
Voilà, tout ça est absolument passionnant. Et si vous souhaitez épater vos enfants et leur montrer des créatures aussi intéressantes que les dinosaures, eh ben vous allez voir plus les reptiles marins, et c'est la mer au temps des dinosaures. Ça paraît chez Belin avec les très belles illustrations d'Alain Beneteau. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous en parler cet après-midi.
Merci.